stockage, pardon. Non, mais t'as pas été désolé, je veux dire, c'est pas si simple. Parce qu'en effet, faut savoir qu'une bassine, c'est pas une réserve de substitution.
Et l'eau n'est pas une ressource, c'est un commun vital.
C'est ça, ouais. C'est pas un bien commun, c'est, c'est un commun.
Et l'endroit naturel où l'eau doit être, c'est pas dans une bassine, c'est dans le sol où elle a toujours été et où elle est le mieux abritée.
Point de vocabulaire, le stockage. Il y a un truc intéressant, on va pas la faire cette balade-là, donc je vais la décrire. On est à Champigny-sur-Veude, on est place du Château-Rouge, et il y a la Veude qui passe là, il y a le Mable qui passe à côté, et on peut faire une petite boucle par le sud du village, sur la digue de la Veude. C'est pas super, les espèces sont pas exceptionnelles, ça a été vachement travaillé déjà, c'est pas très intéressant, et on arrive là sur une petite route, et là on voit que la Veude, elle est occupée par un habitant sympa, un architecte. Le castor. Il a bien inondé la peuplerie derrière avec son barrage qui est sur le bord de la route, tout près de la route, on voit très très bien. Actuellement, le barrage, il est ouvert. Est-ce qu'il a été ouvert ou est-ce que c'est le castor qui s'en est occupé? Est-ce que c'est des bipèdes qui se sont occupés d'ouvrir le barrage? Ça porte conflit quand même, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller dans leur parcelle, c'est compliqué. À des endroits, on finance les propriétaires de manière à pouvoir maintenir le castor, et ça ne se pose pas de soucis, et ça se passe dans le département d'André-Loire aussi. Il y a des solutions. À cet endroit-là, on voit bien, quand on fait cette balade-là, on voit bien qu'il y a des peuplerets au milieu entre le Mable et la Veude, et là on voit des zones humides, on voit que l'eau elle est là, elle n'est pas stockée là, elle est là. Stockée, on a vraiment l'impression de, on se met ça de côté quoi. Non, on va pouvoir s'en servir, oui, pourquoi pas, mais soyons d'accord sur comment, discutons ensemble des priorités. C'est beaucoup plus long de se mettre d'accord sur comment on va pouvoir partager ce truc là que de dire moi je prends ça. C'est beaucoup plus long. Et en attendant, entre ces deux rivières, qui prend l'eau qui est là? C'est l'ancien cours de ces rivières, quoi. C'est là le fond de vallée, c'est la zone humide, c'est la prairie humide, c'est aujourd'hui la peuplerie. Bon, il y a des projets sur voir comment on peut partout modifier les peupleraies et puis en faire des prairies humides, des prairies de pâture, pourquoi pas, comme c'était un peu, quoi. Ou bien non, bien simplement des endroits où l'eau est là et on sait qu'elle est là, elle est purifiée, elle s'infiltre dans les nappes et elle va être à la disposition de tous et de toutes pour faire ce qu'on a à faire avec. En faisant attention à ce commun et le gérer de façon commune. Donc là, cette petite balade-là, elle nous permet de voir, et ça c'est dans, comme beaucoup d'endroits, avec toute l'eau qui est tombée là, on voit bien, justement, pas ce stockage, mais ce lieu, cette zone humide qui est là, qui est vivant. C'est l'eau vivante et libre qui est là, quoi.
L'eau, on ne peut pas survivre, je crois, plus de 3 jours sans boire de l'eau. Donc moi, j'ai accédé à tout cet univers diabolique de l'agro-industrie par le biais des bassines, de la lutte anti-bassines et de bassines non merci. Et là, on saluera au passage notre hydrogéologue préféré, docteur en sciences de la Terre, Anne-Morwenn Pastier, qui explique vraiment très bien les choses. Parce qu'à bassines non merci, notamment, les gens sont très pédagogues. Et donc, moi, des fois, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Derrière cette monstruosité des bassines, en tirant la pelote, derrière, il y a des semenciers, il y a des pesticides, un port colonial et négrier, comme le port de la Palisse par exemple. Il y a de l'artificialisation ou de la stérilisation de terres agricoles, un méthaniseur. Il y a dévoyé les terres nourricières pour fabriquer de l'énergie, effectivement pour faire quoi ? Porte d'entrée vers un univers en fait démoniaque. Et j'ai percuté cet été au village de l'eau que tout ça était un vaste puzzle mortifère dont les bassines sont un rouage parmi d'autres, porte d'entrée parmi d'autres, mais que derrière il y a tout un système. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre.
Oui, bah en effet, de toute façon, il faut du temps hein, pour s'emparer de ces choses qui sont horribles là, qu'on n'a pas envie de voir. Je me souviens d'une caissière l'autre jour. J'avais acheté du poisson. C'était des maquereaux. Et elle voyait les yeux du maquereau. Elle disait je veux pas. Caissière, hein, tu vois, elle devrait avoir une retenue, un devoir de réserve par rapport à ce maquereau.
Et, qui la regardait
enfin, qui la regardait, ouais, oui. Ce maquereau mort qui la regardait, quoi. Elle m'a pas laissé finir ma phrase. Elle m'a dit oui, je sais. Ne me faites pas la morale, j'adore les barbecues, mais ne me faites pas la morale, je veux pas voir. J'ai horreur quand tu des bêtes, mais je mange des poissons. J'ai trouvé ça tellement mignon, quoi. Et en effet, on veut pas voir. Quand tu le prends en pleine face, ça fait chier, en vrai. C'est déstabilisant. Pourquoi tout ce monde d'injustice? Et on n'est même pas égaux devant l'injustice, quoi. Parce qu'il y a des endroits, l'injustice, elle est bien pire qu'ailleurs. Et puis ça dépend d'où tu pars, d'où tu viens, comment t'es, d'où tu vis. À plein d'endroits sur la planète, moi, évidemment, moi, me vient Ramallah, Qalqilia, Gaza, mais c'est du délire, quoi. C'est du délire. Et nous sommes humains capables de fabriquer ces choses-là. Battons-nous, évidemment, ayons tous notre dignité placée au bon endroit. Et levons-nous, évidemment. Mais bon, après, je vais jamais dire à quiconque « Bah pourquoi t'es pas avec nous? Qu'est-ce que tu fous? T'en pas compte? Faut absolument se bouger. » Non, je sais que je le fais, j'adore le faire. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont contents qu'on le fasse à plusieurs. Et puis, ils savent qu'on est de plus en plus nombreux. Et puis, à un moment, on va vraiment être très nombreux. Et c'est parfait, quoi. On va se faire défoncer avant d'être très, très, très nombreux. Mais qu'est-ce qu'on aura rigolé.
Ça m'amène vers la dernière question qui va boucler la boucle. Et donc toi, en fait, comment tu vas?
Moi, si j'ai pas ça, j'ai toujours fait, quoi.
Oui, c'est vrai.
Si j'ai pas ça, ça me manque terriblement. Je suis super content d'arriver aujourd'hui, les semaines de préparation de cet événement aujourd'hui. C'est beaucoup de boulot, on a la pression, mais en même temps on est serein. Puis je me dis, ah bon, je vais pouvoir me reposer après, mais c'est absolument faux. Je sais très bien que je vais repartir aussitôt sur autre chose, sur un autre mouvement extraordinaire, sur une envie de faire ensemble avec tous les copains là. Ça va être formidable. Voilà, c'est ça qui me tient. Palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Nuestra lucha es por la libertad, para el pensamiento y el caminar. Y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Sin palabra no existimos. Ya basta, vive la palabra, vive el ya basta. Sin palabra no existimos, ya basta, vive la palabra, vive el ya basta.
Suite de cette journée champêtre du 5 avril 2025 près de Champigny-sur-Veude, avec des prises de parole de membres et sympathisants de la Confédération paysanne.
Donc c'est une journée de réflexion sur cette chose importante qui est l'eau. Ce commun, cette chose qu'il nous faut gérer. Cette journée, elle fait suite à une journée de mobilisation que nous avons déjà eue ici en décembre 2023 à Chavaigne sur le projet d'une bassine qui devait faire 80 000 mètres cubes d'eau à peu près. Ce projet, il a été abandonné sous sa forme initiale, mais il continue, on dira, à être en évolution. Il était prévu qu'il y ait aussi une organisation d'une concertation locale. Cette concertation n'ayant pas lieu, nous, on a souhaité faire une journée qui permette de discuter et de s'informer. Donc maintenant, ce projet de première bassine là, semble se transformer en un projet collectif beaucoup plus gros. Étant donné l'évolution de ces projets et l'utilisation de l'argent public qui est faite dans ces projets, qui par ailleurs, sans argent public, ne serait pas viable. Donc. Et en raison aussi du fait que le cadre réglementaire devient de plus en plus sévère et facilite l'installation des bassines dans des délais courts, nous avons choisi aujourd'hui de nous mettre un peu en alerte vis-à-vis de ce qui peut advenir localement en termes de bassines. L'idée, c'est que chacun s'informe, puisse discuter sur le partage de l'eau aujourd'hui. Nous sommes assez déterminés à rester mobilisés vis-à-vis de ce combat, éventuellement à entreprendre des recours s'il en était besoin. Et aujourd'hui, donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette discussion. Nous avons fait le choix d'une mobilisation joyeuse et festive. Bon, j'espère que ce sera une bonne journée pour discuter et avancer dans cette réflexion. Donc maintenant, je vais passer la parole à Fanch qui va nous présenter le point de vue, on va dire, paysan. Et des paysannes aussi.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis paysan boulanger, pas loin, là, sur 25 hectares, en polyculture élevage, en vente directe bio. J'ai envie de commencer par reprendre une phrase de Nicolas Giraud, ancien porte-parole de la Confédération paysanne. Il dit « Que les choses soient claires, on ne s'oppose pas au fait d'irriguer, mais le système bassine n'est rien de moins qu'une privatisation d'un bien commun. On voudrait des agriculteurs et des agricultrices qui nous nourrissent et qui n'exportent pas notre eau. » Donc ça recadre bien la problématique que l'eau est un bien commun et que le but, c'est pas qu'il y ait des très gros, très forts qui s'accaparent ce bien de tous. Pas que pour les agricultrices, agriculteurs, mais aussi pour les citoyens, citoyennes qui vivent sur ce territoire. Donc ce combat pour le bien commun, c'est le nôtre. C'est l'eau. On voit qu'il y a des années problématiques comme 2022. Hein, l'eau se raréfie. Donc ça pose des tas de questions. Les bassines, c'est quoi ? C'est fait pour les agricultures d'un modèle intensif et industriel. Modèle qui brasse énormément d'argent au détriment du territoire et de la nature. En fait, il faut savoir que les investissements en agriculture sont assez colossaux, souvent financés par l'Europe et régions, départements et autres. Ça pose des tas de questions sur ces modèles-là, déjà, par rapport à l'argent commun. Les méga-bassines, c'est quoi ? C'est en moyenne entre 8 hectares et 18 hectares, grosso modo, de sols qui sont artificialisés. Même si le projet en question était plus modeste, quand il va revenir au jour, sera-t-il plus grand ? Toujours est-il que ça représente, pour un petit projet comme celui-ci, parlons-en, à peu près 3 hectares d'artificialiser. 3 hectares ramenés à ce que je connais, c'est l'équivalent de 100 familles que je nourris en pain par an. Donc on peut installer un maraîcher aussi dessus. Voilà, ça donne un ordre de ratio des choses, quoi. Sachant qu'en fait, les cultures qui sont faites dessus, c'est surtout du maïs irrigué qui part à l'alimentation animale, souvent à l'autre bout du monde, et qui en plus font marcher la spéculation voilà, des céréales et autres. Donc il y a quelque chose de pas tout à fait ajusté là-dessus. Sachant qu'en fait, il y a des alternatives. Moi, personnellement, je cultive un maïs population qui est bien moins gourmand en eau. Le rendement est peut-être moins, mais finalement, quand on fait les équations du coût de revient et des conséquences que ça a, il reste donc aux paysans, en fait, la responsabilité de faire des choix qui soient bons pour tous, en fait. Respecter la vocation des terres. On ne va pas semer un maïs sur une terre qui n'est pas capable de la porter. S'il s'agit de l'irriguer, c'est une aberration. Donc chaque paysan doit être responsable, chaque agriculteur, agricultrice doit être responsable de ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il y a des conséquences. Hein. Le pompage des méga-bassines se fait en général l'hiver dans les nappes. Mais l'hiver, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau dans les nappes qu'il faut déjà les vider avant l'été. En fait, une fois qu'elles sont vides, elles se remplissent plus. Hein. Donc en fait, on appelle ça des descentes de nappes. Du coup, bah, les puits deviennent secs et ne se rechargent peut-être plus jamais d'ailleurs. Donc en fait, il y a une responsabilité des paysans d'une part, en fait de chacun aussi. Hein. Chacun doit se responsabiliser en tant que citoyen de ne pas laisser faire n'importe quoi sur son territoire. Quant aux finances publiques, elles ne doivent pas se diriger vers des systèmes... Parce qu'en fait, une méga bassine, c'est en général financé à 70%. Une petite bassine, comme il était prévu ici, de 80 000 m3, c'est 800 000 euros à peu près. Alors si elle est financée, ça fait quand même de l'argent. Si elle est plus grosse, ça fait encore plus d'argent. Au-delà du partage équitable de l'eau, il n'y a pas un partage équitable des richesses non plus qui est fait dans cette histoire. Et donc en conclusion, il y a un enjeu vital pour que tout le monde se saisisse de ce sujet et qu'on ne laisse pas faire les accaparateurs. L'eau doit rester donc un bien commun et non un bien de marché qu'on stocke mal en plus, parce que en fait, il y a une évaporation énorme dans les méga-bassines, ce qui n'est pas le cas sous la terre, et qui génère beaucoup de spéculation et de dysfonctionnement et en fait d'inégalité entre les manières de cultiver de certains qui auront des moyens beaucoup plus puissants à reproduire, ce qui est déjà un petit peu le cas, mais ça va encore creuser l'écart. Et c'est un danger pour nos modèles socio-économiques. Merci.
En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya en lengua náhuatl, pai pai, chiligua, cúcapa, cochimí, cumbiaí, chuma, seri, chontal, chinanteco, pame, chichimeca, otomí, ocuilteco, matlaquinteca, mazahua. No morirá la flor de la palabra zapoteco, solteco, chatino. Necesitamos pedir permiso para ser libres.
Nous n'avons pas besoin de demander la permission d'être libre, dixit le sous-commandant Marcos, avant de poursuivre avec Gaëlle, une copine de la conf, et l'une des organisatrices de cette champêtre journée à Champigny-sur-Veude. Fabuleuse journée printanière ce samedi 5 avril.
Voilà. À l'étang d'Assay, collé à la commune de Champigny-sur-Veude.
Dans le sud de la Touraine. Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Tu parles au nom de la Confédération Paysanne, là, aujourd'hui, maintenant, à ce micro? Ou en tant que toi?
Plutôt en tant que moi. En tant que moi et en tant que militante engagée sur des actions locales.
Et paysanne.
Et paysanne. C'est difficile toujours de se couper en plusieurs morceaux. Donc évidemment qu'il y a toujours un petit bout de la Confédération Paysanne en moi, qu'il y a toujours un petit bout de militante engagée aussi avec des collectifs qui luttent un peu sur la question de l'eau, en fait. Voilà, c'est à tout ce nom-là que je cause.
Et cette question de l'eau, donc ce commun vital essentiel, est une porte d'entrée, parce que derrière l'eau, il y a aussi dans le désordre des produits chimiques, des méthaniseurs, du béton, des panneaux solaires qui sont censés remplacer du pétrole. Certes, il y a l'eau, mais en fait, ces bassines, on le dit, on le redit, sont l'un des multiples rouages de cette machine mortifère de l'agro-industrie, voilà, qui va jusqu'au port de la Palisse et jusqu'à un système de domination coloniale sur le reste du monde. L'eau, un commun vital, mais une porte d'entrée vers plein d'autres choses. Voilà, on parle de méthaniseurs beaucoup aujourd'hui,
oui,
par exemple.
Oui, et effectivement, alors, c'est aussi une porte d'entrée sur une lutte locale, en fait, et de un peu faire le lien entre la politique internationale, qui est un enjeu au niveau local. Parce que c'est vrai que souvent les gens ne voient pas forcément le lien entre ce qui peut se passer, par exemple avec les accords de libre-échange, les politiques de prix des produits agricoles, et nous, ici, dans le Richelais, concrètement, quand on est paysan et paysanne, et quand on achète des produits sur le marché, c'est quoi le lien? Et en fait, moi, je trouve que c'est fondamental, c'est lié directement. Nous, si on veut vivre de notre revenu, si on veut que l'agriculture paysanne dure dans notre coin du Richelais, là où on est, hein, on est dans le Richelais, eh ben, c'est lié à une politique internationale agricole bien plus large. L'eau, c'est une porte d'entrée parce que, évidemment, l'accaparement de l'eau à certains et pas à d'autres, ben, c'est un enjeu pour les paysans autour, et puis pas que les paysans et paysannes, hein, pour les habitants des villages aux alentours, on le voit, hein, dans certains pays déjà, et dans certaines régions de France, tu as des villages qui galèrent pour avoir de l'eau à cause justement de bassines comme ça qui sont implantées par ailleurs. Et donc c'est un peu montrer l'enjeu qu'il y a quand on est habitant de Richelieu, qu'on va acheter ses légumes à Nico qui est sur le marché, Et ben, en fait, toute cette politique agricole internationale et européenne, ça a un impact directement sur nos paysages. Ce qui m'importe beaucoup, c'est que déjà, il y a des événements qui se passent comme ça localement. C'est hyper important. C'est, à la conf, effectivement, on a une phrase qui dit « on veut des campagnes vivantes ». C'est hyper important d'avoir des campagnes vivantes. Là, moi, ça me fait plaisir énormément parce qu'il y a plein de gens du coin. Il y a plein de gens de Richelieu, il y a plein de gens de Chinon. Et ils sont venus là pour chercher de l'info. Ils sont venus là aussi pour un moment convivial. Parce qu'en fait, c'est important de faire du lien. La lutte, elle est belle quand elle est joyeuse, à mon avis. Et elle est joyeuse si on se voit ensemble, si on discute ensemble sur des moments comme ça. C'est un endroit qui est beau. Les gens ne connaissent pas forcément. L'idée, c'est qu'effectivement, sur cette lutte-là de l'eau, sur ce prisme de l'eau, on puisse dire, mais en fait, on est impacté. Tu habites à Richelieu, tu ne peux pas dire non, ça ne me regarde pas, c'est une question agricole. Moi, je m'agace souvent parce que ces luttes-là, c'est pas. Souvent, il y a quand même pas mal d'agriculteurs qui disent allez, vas-y, laisse-moi travailler, c'est mon problème, fais pas de l'ingérence dans mon taf, quoi. Et moi, j'aime dire, et à la conf, on aime le dire, que en fait, ça regarde tout le monde, ces questions agricoles. C'est de la production agricole, normalement, c'est alimentaire. On bouffe tous, donc ça nous concerne tous et toutes. C'est pour ça, moi, je suis très contente parce qu'il y a des gens qu'on a croisés au marché, qui ont vu le flyer, qui sont venus. Ils sont intéressés, ils discutent, ils font des liens qu'ils ne faisaient pas forcément. Là, il va y avoir la conférence d'Anne Morouen-Pastier. Ils viennent chercher de l'information et on crée du lien. Il y a des gens qu'on voit souvent, mais on ne prend pas le temps de, tu vois, d'avoir des moments ensemble. C'est quand même rare et c'est hyper précieux pour agrémenter la lutte, pour dire qu'on n'est pas tout seul. Et en milieu rural, il n'y a pas tant d'occasions que ça. Et puis, enfin, moi, je sais pas, en ville, c'est pareil, j'imagine, mais en tout cas, en milieu rural, je trouve que c'est beau. Et ce que je trouve beau, c'est que c'est complètement informel. On s'est mis là, on a posé un peu nos valises, et ça s'organise. Et tu vois, tout à l'heure, il va y avoir un moment festif de concert. Après la conférence, on pourra danser. Enfin, voilà, je trouve que c'est vivant, c'est vraiment le mot.
Et là, on sort un petit groupe d'une balade avec deux naturalistes. Nous emmener ces anciennes zones de pisciculture. Les grenouilles chantaient dans tous les coins, il y avait des oiseaux, des anciennes zones de pisciculture qui ont été abandonnées en tant que telles et qui sont passées sous égide du département.
Du conseil départemental, voilà. Ouais, exactement. Et c'est un lieu, il y a une dizaine d'années, il n'y avait rien, tu vois, c'était complètement abandonné, ça ressemblait à rien. Il n'y avait pas d'aménagement qui permet aux gens aussi de se balader parce qu'en fait, il faut que ça donne envie. C'est très peu connu par les gens du coin, mais ceux qui connaissent, ils aiment bien. Et la balade, franchement, elle est agréable.
Non, quoi. Mais c'est génial.
Ouais.
Et les grenouilles chantaient très fort et en pleine journée, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup surpris.
C'est le printemps.
Cette eau, ces bassines, elles ne flottent pas dans la stratosphère comme ça. C'est aussi inscrit dans des territoires comme celui-ci. Vous partez finalement d'exemples très concrets. On voit une zone humide qui est potentiellement en danger. Cette zone humide, elle est très riche au niveau de la biodiversité, voilà, insectes, végétaux et tout ça. Cette zone humide dont on a besoin, qui est l'une des meilleures manières de garder notre eau aussi et d'alimenter les nappes phréatiques. Cette zone humide qu'on vient de traverser, elle est en danger. Donc.
Ici, on a la Veude et le Mable, des cours d'eau qui traversent comme ça la campagne. Et d'ailleurs, on peut le voir, il y a des fermes régulièrement qui sont au bord de ces cours d'eau depuis des siècles et qui, effectivement, font de l'irrigation. Hein. On n'est pas contre l'irrigation pour l'élevage, pour les cultures, mais qui font ça, tu vois, de façon déjà légale et qui font depuis la nuit des temps. Ils ont fait des retenues, tu vois, à côté, et ils irriguent, ils prennent de l'eau, ils bossent beaucoup avec le syndicat de rivière, tu vois, nous on est en lien avec le syndicat de rivière du coin, et ces agriculteurs-là, ils bossent avec le syndicat de rivière pour justement voir combien ils peuvent prendre, jusqu'à combien, etc. Et l'idée là qu'il y a dans ces futurs projets, où on n'a évidemment pas beaucoup de renseignements pour le moment parce qu'ils font bien attention de ne pas nous dire trop de détails. Là, l'annonce, ce serait que ça mettrait complètement à sec le Mable et la Veude. Donc déjà, tu vois la catastrophe que c'est pour la biodiversité. S'il n'y a plus de flotte, hein, bah, il n'y a plus de vie. Hein. Bah, évidemment, on peut s'imaginer que nous, si on ne boit pas pendant plusieurs jours, on crève. Bah, la faune et la flore, c'est pareil. Et du coup, ça met aussi en péril les exploitations à côté. Et c'est pour ça, quand on dit qu'il faut la partager, il faut faire ça en fait en bonne intelligence et ensemble. Et avec une concertation citoyenne. C'est ce qui était prévu normalement, sauf que là, nous, on attend toujours la concertation. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, ils ne font pas la concertation, nous, on va l'organiser, en fait. On va faire de l'information, au moins, que les gens soient un peu au courant si jamais il y a un moment une concertation. On a fait une lettre, tu vois, le collectif, là, Interorgao du 37, a fait une lettre à l'agriculteur qui avait eu ce projet-là l'année dernière, qui est resté sans réponse, en lui demandant, bah, en fait, vous aviez parlé d'organiser une concertation publique, vous en êtes où? Et effectivement, ce serait une catastrophe, mais une catastrophe sous toutes les formes, c'est-à-dire une catastrophe écologique, une catastrophe économique, et pour les personnes qui feraient ce projet, parce qu'en fait, ils s'endettent à mort. Hein. C'est des modèles économiques qui sont après intransmissibles. Moi, je pense que ces gens-là ne sont pas non plus, je ne sais pas si on peut parler de heureux ou à l'aise, mais en fait, ça pose des gros problèmes aussi pour ces personnes-là.
Ils le savent bien, en fait. Une fois que les nappes seront vides, ça va être compliqué d'irriguer du maïs destiné à fabriquer
plus,
des hamburgers.
Ouais, c'est clair. Et puis, ils se mettent dans des situations économiques toujours hyper précaires. Tu vois, ils vont s'endetter. Il y a l'État qui prend en charge une partie, mais il faut quand même qu'ils aillent à la banque, tu vois, les mecs. Et en fait, je jette pas la pierre parce qu'en fait, ils sont enfermés dans des cadres. Moi, j'en veux beaucoup à l'État, en fait. Enfin, j'ai pas de haine vis-à-vis des gens qui font ce modèle-là parce qu'en fait, ils sont enfermés dans un modèle et ils voient pas comment... Je pense que c'est hyper dur quand t'hérites de ferme de ton père, qui était ton grand-père. Tu suis le modèle et en fait... L'État fait tout pour qu'il reste enfermé. L'autre jour, on m'a rapporté, tu vois, le préfet de la Vienne, il était dans une réunion avec des syndicats de rivières et il disait, il nous faut des bassines, il nous faut du bassine, mais en mode complètement énervé, en criant, en tapant du pied. Et du coup, il pousse, parce que tu vois, ils se disent qu'il y a quand même toujours des thunes à se faire là-dessus, sur le dos, des agriculteurs qui se mettent dans une merde. Donc, j'ai pas de pitié ni de compassion pour eux, c'est pas ça. Mais je pense qu'en fait, le problème, c'est pas ça. Hein. C'est au-dessus l'État qui se fout bien de la gueule de tout le monde, c'est-à-dire et de ces agro-industriels qui se mettent dans des schémas dont ils pourront jamais sortir correctement. Et on a des exemples. Moi, je connais des gens, tu vois, c'est des enfants de ces gens-là. Ils sont pas bien du tout. Ils se sont à moitié retrouvés forcés à enchaîner sur à récupérer la ferme de leurs parents et ils sont mal comme tout. Enfin, je crois que dans cette histoire, il faut considérer les gens, tu vois. Ils se trouvent dans des situations aussi de merde, en fait. Et pour moi, c'est l'État qui instrumentalise tout ça. C'est une volonté, en fait, et c'est un mépris de classe pour moi terrible, en fait. On fait pas attention aux paysans et aux agriculteurs et agricultrices, en fait. On s'en fout, tu vois, c'est un mépris. Et pour les gens qui se mettent dans la merde, parce que la course au productivisme, moi, je pense que, en fait, ces gens-là, ils sont pas bien avec ça non plus. Et puis, les paysans et paysannes, les agriculteurs et les agricultrices qui font leur métier de façon à respecter l'environnement, à respecter les hommes et les femmes qui travaillent la terre. Eh ben, en fait, ils ne trouvent pas leur place là-dedans, mais c'est toujours une question économique, c'est comment tu fais du revenu. Tant que les paysans et paysannes ne pourront pas vivre de leur taf, c'est quand même de là que ça part. Hein. Tant que les paysans et les paysannes, et les agriculteurs, les agricultrices, on les appelle comme on veut, ils ne pourront pas vivre de leur métier, ils chercheront toujours à faire de la merde comme ça. Pour l'énergie, ça rapporte mieux, tu vois. Avoir un méthaniseur, ça rapporte mieux. Avoir des panneaux solaires sur tes terres, ça rapporte mieux. Des éoliennes dans ton champ, ça rapporte plus de thunes. Que faire pousser du blé pour...
Il faut même de faire des thunes, déjà rembourser les dettes,
mais
quoi.
Oui.
Quand tu dis l'État, en fait, bon, l'État n'est qu'un laquais de quelques gros riches, enfin, de multinationales.
Ouais, laquais où ils ont des intérêts très...
Non, mais ils sont au service de semenciers, de marchands de béton, de quelques gros céréaliers.
Président de la FNSEA, tous les agro-industriels qui ont intérêt... à faire en sorte que cette agriculture-là, ce business-là, c'est vraiment un business perdure, quoi.
Il y a eu aussi aujourd'hui, comme il y a 2 ans d'ailleurs, une campagne de distribution de tracts pour les habitants d'ici, pour leur dire quoi d'ailleurs ? Nous ne sommes pas ces vilains éco-terroristes dont la télé vous parle, d'ailleurs ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils disent,
non,
ces tracts ?
Ouais, ces tracts, ils disent un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire casser les clichés qu'on a des bassines, comme quoi ce serait vraiment sans aucun incident écologique, ce serait juste des réserves d'eau qui se remplissent miraculeusement par l'eau de pluie. Donc c'est un peu expliquer en fait que non, une bassine, de dire un peu les conséquences que ça a pour la population, des problèmes d'eau potable, puis aussi de dire ces mégamassines, à qui elles servent ? Elles servent à des agriculteurs qui ne font absolument pas d'alimentation. Et ça, souvent, les gens ne voient pas. Ils croient que ça va permettre d'irriguer les champs de blé qui finiront par des farines et du pain dans leurs assiettes. Non, c'est du maïs en général. Et tout ça, ça finit effectivement dans des méthaniseurs pour faire de l'énergie.
Ou c'est exporté sur les marchés mondiaux, destiné à des camps de concentration pour